Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. C'est le retour des grands navires de guerre sur nos mers et nos océans. Le marché n'est plus aux patrouilleurs, mais aux frégates, aux porte-avions et aux sous-marins. Sans parler des drones aériens et sous-marins dopés à l'intelligence artificielle. Pour en parler, je reçois Hugues d'Argentré, directeur du salon Euronaval, la plus grande manifestation au monde consacrée à la défense et à la sécurité maritime qui a lieu à Paris tous les deux ans à l'automne. Et Philippe Missoffle, délégué général du GICAN, le groupement des industries de construction et activités navales. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Donc à l'occasion de ce salon, vous diffusez des chiffres sur le marché de fabrication de ces navires de guerre. On a d'un côté la Chine avec 455 navires, mais 1,3 million de tonnes. Et de l'autre côté, les États-Unis avec 246 navires de guerre, mais 3,2 millions de tonnes. Alors, il faut prendre quoi en compte, les tonnes, le tonnage ou le nombre de navires ?
Pendant très longtemps, il a fallu prendre en compte le tonnage. Ouais. Aujourd'hui, ça a changé. Donc aujourd'hui, ce qu'on prend en compte, c'est le tonnage, bien évidemment. Mais vous allez aussi avoir, en effet, le nombre de navires, comme vous l'avez dit. Leur diversité.
Ouais.
Il y a différents types de navires qui existent. Il faut donc en avoir divers pour que ça fonctionne. Et ensuite, c'est les équipements qui sont à bord, notamment les systèmes d'attaque qui sont à bord et leur haute technicité.
Donc le système d'armement.
Le système d'armement, exactement. Ouais. Il faut prendre tout ça en compte pour définir qu'est-ce qu'est une marine puissante.
Voilà. Donc si là encore, je prends vos chiffres. Les États-Unis, c'est 20 porte-avions. Mais la Chine, c'est seulement 2. La Russie, 1. Donc là, on peut dire qu'au niveau des porte-avions, les Américains écrasent tout.
Oui, alors les Américains écrasent tout depuis longtemps. La Chine est partie un peu après. Donc, ouais. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui corrobore ce que vous venez de dire, c'est que sur le salon, si on veut revenir au salon, on a énormément d'Américains.
Ah oui.
On n'a pas de Chinois.
Ah bon ? Quasiment.
Non. Vous voyez, donc la Chine est encore en devenir sur ce marché, même si, bien sûr, les chiffres sont impressionnants, mais c'est plutôt un nouveau entrant sur le marché des navires de guerre à l'export et sur le marché international, alors que les Américains sont sur le marché depuis la dernière guerre.
Mais là encore, si je relis votre étude, il est dit très clairement que la cadence de fabrication des Chinois est largement supérieure à celle des États-Unis.
Alors, donc, ça va être un grand acteur. C'est la première, depuis deux ans, en effet, c'est la première fois où on voit un renversement de la tendance. Depuis longtemps, déjà, une décennie, la Chine a augmenté ses cadences de construction, d'abord dans le domaine civil, puis maintenant dans le domaine militaire, avec les velléités qu'on connaît, que ce soit sur Taïwan ou sur la mer de Chine. Et depuis, en effet, deux ans, c'est la première fois qu'elle construit plus de navires que n'ont construit les États-Unis sur notamment les sous-marins et sur les bâtiments fortement armés.
Et ce que vous dites, c'est que ça reste des navires de qualité.
J'ai dit que ça reste des navires fortement armés.
Oui, mais dans votre étude, ce n'est pas des sous-produits. Vous montrez que...
mais non, la Chine aujourd'hui est capable de faire des navires qui sont de qualité. Maintenant... personnellement, je ne suis pas allé inspecter ce qui est à bord, et peu de gens l'ont fait. Néanmoins, on voit que dans leurs outils, aujourd'hui, l'Europe reste leader sur toutes les technologies.
Ouais.
Donc ça, clairement. À votre première question, pour revenir sur votre première question, ce qui est à bord du navire, c'est quand même ce qui compte.
Ouais.
Néanmoins, on voit que les Chinois massifient leur marine. Et c'est un sujet, donc, évidemment, de préoccupation pour l'ensemble des marines, aujourd'hui occidentales, notamment.
Ils ne sont pas sur le salon, les Chinois, parce qu'ils n'ont pas souhaité ou parce qu'ils n'ont pas envie d'être des vendeurs et des exportateurs ?
Non, ça, je pense qu'ils ont envie d'être vendeurs et exportateurs, comme un peu tout le monde. Mais en fait, les Chinois, comme les Américains, ils ont un marché domestique, ce qu'on appelle domestique, considérable.
Ouais.
Pour satisfaire leurs propres besoins, ils n'ont pas besoin d'exporter, en fait, d'un point de vue purement économique. Ce n'est pas le cas des pays européens qui veulent entretenir leur outil de défense et leur industrie, doivent exporter.
Mmh.
Donc les Américains comme les Chinois n'ont pas vraiment de besoin économique d'exportation.
On va ouvrir une parenthèse. Israël non plus n'est pas présente sur le salon. Vous n'avez pas souhaité...
Alors Israël est présent sur le salon dans des conditions qui sont un peu particulières et qui sont un peu nouvelles.
Voilà. Ouais. Alors ce salon, c'est 450 exposants, trentaine de pays, 22 000 visiteurs. C'est quoi les nouveautés de cette édition 2024 ?
Je crois que vous l'avez bien dit en entrant, hein, en ouverture. Il y a le retour de ce qu'on appelle les conflits, le potentiel conflit de haute intensité. Donc, on va avoir moins de patrouilleurs, moins de petits bateaux parés à répondre à des menaces qu'on appelle les menaces asymétriques. Là, énormément de produits seront dédiés au combat de haute intensité, donc en haute mer et lointain. Et bien sûr, les drones seront très présents, comme sur tous les salons technologiques actuellement, enfin depuis quelques années. L'IA est également très présente. Alors, on n'a pas des produits IA, mais l'introduction de l'IA dans l'utilisation, même si c'est quelque chose qui est assez ancien. Forcément, c'est une technologie qui prend de plus en plus de place et fait progresser la technologie des navires.
Oui. Des pays que vous n'aviez pas vus dans les précédentes éditions, qui sont présents, qui ont envie de vendre leur techno?
Alors, il y a un pays qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps, c'était le Brésil, qui revient. Sinon, non, vous savez, les pays qui produisent de l'industrie navale et qui ont besoin d'exporter ou qui souhaitent exporter, ce sont à peu près les mêmes depuis 20 ans.
D'accord. Alors, là encore, si je prends les chiffres que vous nous avez fait parvenir, le marché d'avenir, c'est l'Asie-Pacifique. Là. J'ai l'impression qu'il y a un désir, une volonté de réarmement en Australie, Bangladesh, Inde, etc.
Oui, tout à fait. C'est en effet la zone aujourd'hui principale pour la filière navale française pour exporter. C'est clairement l'Asie. Oui. D'ailleurs, nous, au GICAN, on a même un VIE qui est basé en Malaisie, justement, pour couvrir une partie de la zone.
Donc, un étudiant qui va...
Alors non, c'est plus des étudiants.
Ah,
maintenant, c'est des personnes qui sont rentrées dans le marché du travail et qui continueront ensuite, qui ont terminé leurs études et qui restent pour une durée de 2 ans dans les pays et qui apportent donc un soutien à nos adhérents là-dessus. Mais en effet, oui, aujourd'hui, les grands marchés, ils sont en Asie, ils sont en Indonésie. Vous avez aussi des renouvellements qui sont souhaités aux Philippines. Vous avez la Malaisie aussi qui continue ses programmes. L'Inde, qui essaye aussi qui se développe sur les marchés sous-marins et navires de surface. Donc c'est ici où il y a énormément de potentiel. Il y en a aussi beaucoup de développement dans la zone Moyen-Orient. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Évidemment avec toutes les crises qui ont lieu, donc l'utilisation des drones, tu en parlais, qui est quand même une des grandes tendances du moment, on la retrouve notamment avec les sujets dessins de drones beaucoup dans cette zone là vous allez et puis ensuite en Europe il y a aussi quand même une phase de réarmement qui est en cours, de modernisation des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc ceux qui ont l'arme atomique, des sous-marins nucléaires d'attaque, des sous-marins conventionnels pour ceux qui n'ont pas de sous-marins nucléaires. Donc il y a vraiment une tendance qui est généralisée. Mais c'est vrai que le marché asiatique aujourd'hui, de par la situation géopolitique, est un des marchés principaux.
82 milliards, un peu plus, ce marché-là, de dollars.
Exactement.
Donc... Il y a des parts à prendre,
Exactement.
De marché à prendre.
Exactement. Et les Français sont aujourd'hui sur le ne sont pas en reste sur les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la filière pour la partie militaire.
Oui.
Vous avez en gros 35% qui sont exportés aujourd'hui.
Oui. Moi j'avais 39%, mais
35-39. Je me trompe. C'était 35 il y a 2 ans et c'est 39 maintenant. Vous avez tout à fait raison.
À l'export. Donc nous on est capable de vendre toute la filière ou bon il y avait les sous-marins, cette triste affaire avec l'Australie qu'on n'a pas eu, mais
on en a eu d'autres. Il ne faut pas rester mais là-dessus. Attention, il ne faut pas rester là-dessus.
Est-ce qu'on est capable de vendre du porte-avions aussi ?
Bien sûr, on est capable de... Un des grands atouts de l'industrie, je parle sous ton contrôle, un des grands atouts de l'industrie navale française, c'est que nous couvrons l'ensemble du domaine.
Mm-hmm.
Les petits bateaux, les grands bateaux, les sous-marins, les avions de patrouille maritime, les frégates, les drones, toute la chasse aux mines, les grands fonds. Donc vraiment, l'industrie navale française, c'est un coup complet.
Ouais.
Donc on n'a pas de trou dans la raquette du tout. Et forcément, ça intéresse nos partenaires partout dans le monde parce que il y a quelques autres industries dans le monde qui ont ces capacités, bien sûr les États-Unis, mais il n'y en a pas tant que ça.
Ouais.
Donc l'industrie navale française est bien placée.
Est-ce qu'il faut pour autant réfléchir à une consolidation de l'industrie européenne comme on a parlé d'un char commun, d'un avion de chasse commun?
C'est une très bonne question et c'est une question qui se pose depuis très longtemps. Et on a vu le résultat jusqu'à présent, c'est qu'il y en a eu peu de consolidation. Voilà. Mais pourquoi il y a deux choses. La filière, elle est composée d'acteurs qui conçoivent les navires. Ouais. Donc vous allez avoir les chantiers navals et vous allez avoir les équipementiers. Ouais. Sur la partie équipementier, vous avez des grands équipementiers qui se sont formés, qui ont racheté des sociétés. Je pense à Thales, par exemple, pour la France, qui est un groupe international aujourd'hui. Par contre, sur les domaines des chantiers, donc vous avez des grands chantiers, mais qui, pour le coup, un chantier, il faut voir, c'est une installation qui coûte beaucoup d'argent, qui se trouve en général au centre d'une ville et qui fait vivre une ville. Ouais. Si vous décidez de consolider deux chantiers ensemble, il y a un moment, ce risque-là, en effet, qui est celui de la fermeture. Et donc, qui acceptera politiquement et économiquement de fermer un jour le poumon de sa ville? Je pense que, en fait, donc, c'est compliqué. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de partenariat. Il y en a notamment au niveau européen. Il y a le projet de corvette européenne, par exemple, aujourd'hui, qui est traité notamment par Naval Group et Fincantieri et leur filiale commune qui s'appelle Naviris.
Et de porte-avions européens?
Et alors, le porte-avions européen, c'est un projet qui a été évoqué par Thierry Breton. Néanmoins, aujourd'hui, le sujet, c'est un porte-avions français, c'est le porte-avions nouvelle génération, qui est en cours de développement.
Merci beaucoup, messieurs, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.